France a donné une double postérité. La première postérité, ce qu'on appelle la querelle des deux races. Dans cette théorie-là, la noblesse française, étant l'héritière des envahisseurs germaniques, des Francs, a sur les autres populations une légitimité de vainqueur. C'est-à-dire que les nobles ont tous les droits parce qu'ils ont vaincu les gallo-romains qui sont eux de race mêlée ou inférieure. Et donc les nobles français, étant d'authentiques germains, ont ces droits de vainqueur. Et ça, Gobineau le récupère avec sa recherche d'une origine aristocratique qu'en plus il lie aux vikings. Donc ça, c'est une théorie que Gobineau s'approprie. Mais la lecture la plus importante, c'est une lecture libérale. Principalement développée par Montesquieu, et on trouve dans Montesquieu, dans l'esprit des lois, des développements très très longs sur la supériorité de la race germanique qui est là pour apporter la liberté au monde. Et Gobineau fréquente principalement des libéraux, tout en étant plutôt, disons, d'extrême droite idéologiquement. Il fréquente énormément de libéraux. Je disais donc que c'était le chef de cabinet de Tocqueville qui l'avait pris comme chef de cabinet parce qu'ils étaient amis. Et dans cette théorie-là, on comprend très bien, je veux dire, on vit dans un monde où, sans caricaturer, disons, enfin, il y a quand même beaucoup de pays qui s'estiment un droit de conquête sur les autres parce qu'ils estiment qu'ils sont plus libres et qu'ils vont leur apporter la liberté. On est en plein dans cette idéologie-là. Et donc, et Gobineau, en fait, associe les deux d'une certaine manière. La race blanche est supérieure parce qu'elle est plus libre. Et parce qu'elle est plus libre, a la capacité d'organiser les autres races et de créer à partir d'eux une civilisation, disons. Bon. Voilà. Bon, ces explications qui sont parcellaires, on ne sait pas à partir de quel moment est-ce qu'il a vraiment commencé à travailler dans les sciences naturelles, à s'y intéresser réellement. On ne sait pas pourquoi, je pense qu'on ne saura jamais, parce qu'il y a une grande partie de ces archives qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'il en a survécu? Pas grand-chose. Gobineau, de son vivant, est complètement ignoré. Alors, c'est très touchant parce que chaque fois qu'il y a un de ses livres qui paraît, il explique à tous ses amis dans ses lettres, ça se vend comme des petits pains, c'est génial, cette fois je suis bon pour l'académie, etc. Alors qu'en fait, ça fait toujours un vide absolu. Il n'a pas été totalement oublié parce qu'il est devenu ami de façon complètement fortuite dans les deux dernières années de sa vie avec Richard Wagner. Wagner qui était quand même un peu fatigué, de même que Gobineau était un petit peu fatigué, donc le récit de leur relation donne un peu l'impression de gâteux qui se racontent tous les deux leurs souvenirs 25 fois d'affilée. Mais Wagner était évidemment extrêmement puissant et a convaincu certains de ses disciples de sauver la réputation de Gobineau. Et il en a trouvé un qui a marché, qui s'appelait Ludwig Schemann, et qui a monté une espèce de plan, de programme, et donc là qui est une partie des choses sur lesquelles je travaille, pour comment faire pour que cet écrivain complètement méconnu dans son propre pays soit lu partout, devienne une star, devienne... Et donc il a l'idée de commencer par traduire certaines de ses œuvres littéraires, notamment les Nouvelles Asiatiques, donc le livre par lequel j'ai commencé, et un livre que je trouve personnellement très pénible, qui s'appelle La Renaissance, qui est un recueil de dialogues imaginaires entre des grandes personnalités de la Renaissance, et qui s'entretiennent comme ça de la vanité du monde et de l'art, et c'est extrêmement ennuyeux. Mais en Allemagne, en 1900, ça a un succès démentiel, mais quand je dis démentiel, c'est que ça s'est vendu à peu près à 200 000 exemplaires. L'année où il est tombé dans le domaine public, il y a eu 7 traductions, enfin, c'était une véritable star. Et Schemann, quand il a réussi à faire ça, s'est dit « Ok, maintenant, c'est bon, je peux leur balancer, laisser sur l'inégalité des races. » Et là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça marche très très mal. Ça marche un petit peu parce que le marché de la théorie raciale est très actif en Allemagne à cette époque-là. Mais ça ne marche pas, principalement parce qu'il a de la concurrence. La concurrence, c'est le livre de Chamberlain, « La jeunesse du 19e siècle », qui est le grand inspirateur d'Hitler, et qui paraît exactement en même temps que la traduction de l'essai sur l'inégalité des races, et qui là est un best-seller absolu. C'est, jusqu'en 1939, l'essai sur l'inégalité des races se vend à peu près 4000 exemplaires, la plupart ayant été achetés par Schemann, donc son traducteur lui-même, pour les distribuer dans les lycées. Chamberlain se vend à 250 000 exemplaires. Bon, Chamberlain est complètement blackboulé, et puis là, il a fini vraiment dans beaucoup d'amertume, l'impression que son travail n'était pas reconnu à sa juste valeur. Bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors, j'ai passé 2-3 ans à fouiller dans les archives, non seulement dans les parties, dans l'œuvre inédite de Gobineau, une partie de sa correspondance qui n'avait pas été publiée, une partie de ses manuscrits qui ne sont pas publiés non plus, et dans les archives de ses lecteurs, c'est-à-dire de Scheman, de Chamberlain. Je suis tombé sur quelques documents, j'ai pas plus creusé que ça, en tout cas pour ce qui est des archives, dans la correspondance des Wagner. Je me suis retrouvé avec un matériau qui était assez imposant, et j'avais deux possibilités en fait pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. La première, c'était de faire une biographie à l'américaine en 1200 pages où je rentrais dans le détail du moindre aspect de sa pensée ou de sa vie. Je pense que je suis vraiment beaucoup trop paresseux pour ça. Et donc j'ai pris l'option inverse qui consiste à rédiger un recueil de textes courts en me focalisant à chaque fois sur des aspects extrêmement précis qui pouvaient être des aspects biographiques, des aspects de sa pensée, un document voilà, sur lequel j'essaie d'écrire assez librement. Et j'ai décidé de travailler comme ça parce que ça me permettait de résoudre de la façon la plus juste, à mon avis, les contradictions auxquelles j'avais affaire. Un exemple où ça va m'être, parce que j'ai pas fini là-dessus, très utile, c'est la mère de Gobineau. Quand on voit ça du point de vue de son fils, évidemment c'est une monstruosité, hein, c'est-à-dire si vous voulez traumatiser un gosse, vous faites comme elle, quoi. C'est un désastre. En plus, il avait une petite sœur handicapée, elle battait cette fille parce qu'elle ne supportait pas d'avoir cette gamine comme ça qui était un peu impotente et qui lui traînait dans les pattes. Vraiment, c'est le cauchemar, quoi. D'un autre côté, j'ai pas du tout envie, j'ai commencé par écrire dans ce sens-là, parce que j'essaie d'avoir une certaine empathie avec mon personnage, mais d'un autre côté, j'ai pas du tout envie de jouer au père à la morale, et je sais pas, qu'est-ce que ça aurait été le modèle positif à donner à ce garçon, quoi. C'est une mère au foyer, etc. Et donc voilà, je me suis dit, en travaillant comme ça, je vais pouvoir partir dans une autre direction ou essayer de mettre en avant la liberté de cette femme, finalement, qui a essayé les choses, qui a écrit, qui a rencontré du monde, qui a été un personnage relativement audacieux, et peut-être que l'aspect délirant dans lequel Gobineau se laisse complètement aller est aussi un héritage de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a grandi quand même avec une espèce de modèle de liberté. Bon. Je vais vous lire un morceau de ce que ça donne. Je ne sais pas quelle heure il est.
19h.
Oula, mince, j'ai pas arrêté. Alors, je vais vous lire, pour commencer, le début du livre, qui est un travail purement documentaire. Donc, comme j'ai brassé beaucoup d'archives, j'avais envie de m'effacer un peu derrière mon matériau et de donner à lire simplement les choses sur lesquelles j'ai tombé. Donc le livre commence par toute la première partie, qui est donc surtout sur la réception de Gobineau, porte sur l'époque où il était célèbre, l'époque où ça a fonctionné, et pour donner une idée de qui lisait Gobineau et comment on le lisait, j'ai vraiment fait une espèce de collage de ce sur quoi je tombais en lisant les journaux, en lisant des comptes rendus de revues, etc. Bon, vous verrez ce qu'on voit très bien, disons quelle est ma part et qu'est-ce qui est de l'ordre du document. Turin, 1932. Il y a sans doute une fanfare, de trompettes, de saxophones, un trombone, un tuba, une caisse claire, une grosse caisse, les musiciens en uniforme, casquettes sur la tête, vestes à gros boutons que font briller de rares percées du soleil. Tout ce monde se sera retrouvé un peu en avance au café, un amaretto sur le comptoir pour se mettre en train, avant de se diriger, traînant un peu le pas, les instruments sous le bras, vers le cimetière. La troupe a bientôt perdu toute allure. L'un s'attarde pour se mêler de la conversation de ses suivants, l'autre presse le pas pour emprunter une cigarette à celui qui le précède. Une petite foule d'officiels s'est donné rendez-vous devant l'entrée. Le vice-podestat, Piero Gianolio, fasciste de la première heure. le vice-secrétaire général de la municipalité, Francesco Cabas, l'inspecteur général des cimetières, Falcioni, pourquoi pas un représentant du consulat de France. Serrage de main, levée de chapeau, salut le bras tendu, puis on s'engage dans l'allée entre les sculptures funéraires, les anges, les effigies des défunts, avocats, médecins, philanthropes barbus en frac, à qui la mort tend les bras, madames et saints en oraison, tous parcourus par la légère brume matinale qui les cache à moitié, jouent avec leur ombre, les fait ressembler à un rêve. Discours. En ce 50e anniversaire, etc., c'est pour moi un immense honneur. Le consul tire sur le cordon qui écarte le rideau, applaudissements de quelques curieux, les érudits du monde entier qu'annonçait la presse ne se sont pas présentés. Flash, encore un petit coup de fanfare, serrage de main, levée de chapeau, salut le bras tendu. Les derniers badauds se rapprochent pour lire la plaque offerte par la municipalité. Giuseppe Arturo, conte di Gobino, nato in Villavrè nel 1816, morto in Torino il 13 ottobre 1882, diplomatico, scrittore, filosofo, il tempo e gli eventi ne esaltano la figura di Presago Pensatore. Joseph Arthur, comte de Gobineau, né à Villavrè en 1816, mort à Turin le 13 octobre 1882, diplomate, écrivain, philosophe, le temps et les événements exaltent en lui la figure du penseur visionnaire. Quelqu'un se penche pour déchiffrer les mots inscrits sur le ruban attaché à la gerbe, à Arthur Gobineau, la ville de Turin. L'assistance qui se disperse reste sur sa fin, aucun monument commémoratif est-il taillé dans le marbre le plus rare, ne saurait corriger un certain défaut de solennité propre aux cases de colombarium tel qu'on en voit surtout dans les cimetières d'Espagne ou d'Italie. Le fait est que le spectacle d'une veuve sanglotante juchée au sommet d'une échelle n'a rien d'édifiant. Turin, 1882. C'est la nuit. Les rues sont pleines du trafic du soir. Un cocher arrête son fiacre devant l'entrée du terminal des départs de la Via Nizza, saute de son siège et ouvre la portière. Le corps de son passager s'effondre sur la chaussée. Non, n'en rajoutons pas. Le cocher ouvre la portière. Dans l'ombre, affalé au fond de la cabine, la tête reposant contre l'angle de la fenêtre de la banquette, gît un corps inanimé. Le cocher referme la porte. En voilà un qui prendra son train une autre fois, ou jamais. Le sapin fait demi-tour et rapporte son chargement à l'hôtel. Dans une autre version, Gobineau se fait conduire à l'omnibus qui le mène à la gare, où le chef de gare refuse de le laisser embarquer. Inquiet, le directeur de l'hôtel l'a fait suivre par un employé qui le raccompagne. Dès lors, aurait raconté ce dernier à la comtesse de la Tour, il s'est laissé aller, a rapidement perdu connaissance et est mort le lendemain, peu avant midi, la main dans la main d'une infirmière. Le médecin et le prêtre, appelés ensemble, n'ont pu que constater leur impuissance. Le premier diagnostique une apoplexie, le second admet à contre-cœur que le moribond n'a pas eu conscience qu'il lui administrait l'extrême onction.